Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.
Et donc nous sommes dans Sortir du capitalisme pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à l'antisémitisme. Et pour en parler, nous sommes avec deux membres de la revue Stoff, dont le numéro 1 traite notamment de la question de l'antisémitisme en France aujourd'hui, plus particulièrement, et de l'antisémitisme plus généralement. Donc bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors donc, l'article qui traite de cette question dans le numéro 1 de la revue Stoff s'appelle « Plus blanc que blanc, point d'interrogation, révolte et antisémitisme ». Et il vise un peu à un renouvellement et aussi à une critique des théories traditionnelles et mainstream aussi à l'extrême gauche de l'antisémitisme. Et donc, vous dites dès la deuxième page de l'article que votre article essaye d'éviter trois écueils. Le premier, c'est d'identifier racisme et précarité matérielle, ou encore de dire que le racisme ne peut avoir d'intérêt et de réalité que s'il segmente le prolétariat. Deuxièmement, vous critiquez une vision de l'État comme le seul producteur de racisme. Et troisièmement, vous critiquez l'absolutisation de l'antisémitisme comme une espèce de racisme qui n'aurait rien à voir avec les autres formes de racisme. Et donc, vous vous positionnez explicitement dans l'article contre deux grandes interprétations de l'antisémitisme dans nos milieux. L'interprétation décoloniale, anti-impérialiste, anticolonialiste d'une part, qui finalement n'appréhende l'antisémitisme qu'à travers son instrumentalisation par l'État français et ne voit l'antisémitisme des prolétaires racisés que comme finalement une révolte qui viserait mal son objet, mais qui malgré tout serait une première étape vers une critique du colonialisme, de l'impérialisme et du capitalisme. Et puis vous vous positionnez aussi de manière critique vis-à-vis plutôt de visions de l'antisémitisme portée par la critique de la valeur, qui voit dans l'antisémitisme uniquement une critique tronquée du capitalisme. Et donc, votre article, il est extrêmement riche dans le sens où il n'explique pas l'antisémitisme en une phrase, où il ne prétend pas le réduire en une phrase à « c'est une critique tronquée du capitalisme » ou « c'est une critique pour l'instant mauvaise du système dans lequel on vit, mais qui peut, disons, être réorientée et devenir quelque chose de positif », et qui finalement, d'ailleurs, n'est pas propre au Parti des Indigènes de la République, mais qui était aussi avancé par Jaurès à la fin du XIXe siècle, ou par d'autres qui voyaient l'antisémitisme comme un ferment d'anticapitalisme. Donc vous essayez de dépasser un petit peu ces écueils, et donc j'ai envie de commencer par une question. Pourquoi est-ce que vous avez écrit donc un article sur l'antisémitisme, donc un thème extrêmement chaud, et vous semblez dire que ce n'est ni au nom d'une posture morale que l'antisémitisme ce serait pas bien et qu'il y aurait trop d'antisémitisme dans l'extrême gauche, ni non plus simplement l'idée que finalement l'antisémitisme serait une critique erronée du capitalisme et donc il faudrait arriver avec une vraie théorie. Donc si ce n'est pas pour dire l'antisémitisme est une théorie fausse, pas seulement, et ni pour dire que l'antisémitisme est immoral, même si en partie, évidemment, c'est ce que vous pensez, pourquoi écrire du coup un article sur l'antisémitisme en France aujourd'hui ?
Cet article, comme les autres textes dans ce premier numéro de Stoff, sont en fait le fruit de discussions, de confrontations autour de certaines thématiques qui reviennent dans le milieu, quoi. Si on a été conduit spécifiquement à travailler sur l'antisémitisme et à nous confronter à cet objet, c'est parce que toutes les positions existantes sur ce sujet paraissaient pas voir l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance, en fait, à contourner les enjeux auxquels nous confronte l'antisémitisme, qui sont pour nous en fait des enjeux qui relèvent de problèmes pratiques, c'est-à-dire de limites auxquelles se heurtent aujourd'hui les différentes formes de contestation sociale et politique. Pour le dire plus concrètement, d'une part, il y a cette tendance qui a déjà été évoquée à considérer l'antisémitisme uniquement comme quelque chose qui est instrumentalisé par l'État, par le gouvernement, par les idéologues, pour opposer les bons citoyens qui ne sont pas antisémites aux mauvais citoyens qui, pour des raisons culturelles ou par manque d'éducation, promeuvent l'antisémitisme. Cette façon, en fait, de réduire l'antisémitisme à son instrumentalisation, elle a tendance à justement considérer les choses uniquement en termes de positionnement contre un discours dominant, contre un discours hégémonique. Et justement, en fait, pour nous, c'est en quelque sorte plus qu'un écueil, c'est un piège, puisque en fait, ça réduit un petit peu notre rapport à cette question à un enjeu de distinction, à un enjeu de distinction vis-à-vis de ce discours hégémonique qu'il faudrait en fait souvent, du coup, selon les gens qui ont cette conception, qu'il faudrait en quelque sorte retourner contre lui-même de manière en fait à simplement dire le contraire. Donc le gouvernement dit que l'antisémitisme est le plus grand fléau de la société contemporaine, donc nous devons dire que l'antisémitisme est un fait parfaitement minime dont on se contrefiche, ou alors dire que aller jusqu'à dire que l'antisémitisme n'existe plus, tout simplement. Donc il y a déjà le fait d'identifier ce piège-là et la volonté de le déconstruire a été une première motivation. Ensuite, parmi les groupes, les individus qui se sont vraiment affrontés d'une manière ou d'une autre à la question de l'antisémitisme, pour nous, là encore, l'enjeu n'était pas très clairement saisi. C'est-à-dire, pourquoi s'y intéresser et pourquoi prendre cette question au sérieux. Et là encore, en fait, il y a la dimension, en fait, disons, du bourbier dans lequel se trouve la question de l'antisémitisme. C'est-à-dire, qui dit qu'on va travailler sur l'antisémitisme, qui dit qu'on va enquêter sur l'antisémitisme, et d'emblée soupçonner de tenir, en fait, cette question pour la question principale à partir de laquelle on va déployer toutes nos critiques de la société contemporaine. Et qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, c'est cette association entre critique de l'antisémitisme et positionnement sioniste d'une manière ou d'une autre. Et globalement, du coup, l'expression courante qu'on entend souvent dans l'extrême gauche, c'est l'expression d'anti-Deutsch, donc en référence au mouvement donc dit anti-allemand qui émerge à partir de la fin des années 80 en Allemagne, RFA pour commencer, et qui a conduit petit à petit à l'élaboration en effet de toute une vision du monde en fait où l'antisémitisme habiterait encore structurellement la société et en particulier la gauche et serait présente dans toutes les formes d'anticapitalisme qui ne sont pas justement les bons anticapitalismes marxistes comme il faut, ou alors qui seraient même présentes dans toute forme d'invocation du peuple ou de la nation. Dans la mesure où, on fait d'emblée l'objet de ce soupçon, quand on travaille sur l'antisémitisme, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait essayer d'élaborer un questionnement qui permette, plutôt que d'affirmer, comme le font les anti-Deutsch, que l'antisémitisme est en quelque sorte la tendance la plus importante presque des sociétés européennes contemporaines, voire de toutes les sociétés, en fait, on a voulu en quelque sorte poser une question somme toute assez naïve, qui consiste à dire, c'est quoi cet antisémitisme dont on parle? Quels sont en fait les actes et les discours qui ciblent les juifs en tant que juifs aujourd'hui? En quoi consiste-t-il pratiquement et quelles en sont les implications pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment est-ce qu'on peut s'en aider de cette analyse de l'antisémitisme contemporain pour s'orienter dans les luttes?
Pour mettre les choses en contexte, le but, un des buts de cet article, c'est simplement de se positionner dans une situation où très souvent l'antisémitisme est, comme le disait le copain, relativisé, c'est-à-dire soit il est quelque chose qui ne serait qu'une fonction idéologique de l'État pour disqualifier d'autres luttes, soit il aurait une importance tout à fait minime, au moment même où, en fait, l'antisémitisme connaît alors une recrudescence depuis, comme a essayé de le montrer le moment empirique de l'étude depuis les années 2000, et où il est encore toujours une sorte de tendance habitant certaines luttes qui, en tant que telle, doit être prise au sérieux et critiquée.
Pour résumer, en fait, on pourrait dire que l'insatisfaction qu'on ressentait, c'était justement l'absence d'une telle confrontation à l'antisémitisme en tant que problème pratique. Problème pratique déjà dans la mesure où c'est une expérience de juifs et de juives qui sont ciblés par des discours ou des pratiques, déjà pratiques au sens là, au sens d'une expérience de certains individus ciblés. D'autre part, un problème pratique parce que l'antisémitisme informe aussi d'une manière ou d'une autre les formes que vont prendre certaines luttes. Alors, c'est évidemment un sujet épineux qui a beaucoup divisé, qui a fait l'objet de controverses, mais on a eu quand même à se confronter à des expressions d'antisémitisme, c'est indéniable, dans le mouvement des Gilets jaunes, des expressions d'antisémitisme. Bon, là, je pense pas spécifiquement à ce qui est retenu comme des scandales antisémites, c'est-à-dire le fait de considérer que le rapport des Gilets jaunes à Alain Finkielkraut, par exemple, serait le plus représentatif du rapport des Gilets jaunes à l'antisémitisme. Mais je pense plus généralement, en fait, à une certaine manière, par exemple, de cibler des symboles considérés comme juifs, d'une manière ou d'une autre, comme une sorte d'incarnation de la domination, ce qui s'exprime par des actes, ce qui s'exprime par une certaine allégeance vis-à-vis de Dieu donné. C'est par cette voie-là qu'on a essayé de prendre les choses, en partant de comment l'antisémitisme a encore aujourd'hui des formes renouvelées et des effets pratiques dans les luttes.
Oui, j'ai l'impression que, en fait, ce que vous essayez de faire dans cet article, c'est contrairement finalement à la plupart des courants qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à l'antisémitisme pour des raisons pratiques ou des raisons théoriques, c'est que j'ai l'impression que vous essayez de prendre l'antisémitisme au sérieux dans le sens où, pour vous, c'est un problème pratique qu'il faut résoudre en lui-même et non pas uniquement parce qu'il serait associé de manière unilatérale à, disons, l'ennemi principal, que ce soit le capitalisme dans le cas de la critique de la valeur, où finalement on a l'impression que l'antisémitisme parfois se réduit finalement à une critique tronquée du capitalisme, que ce soit dans le cas de la critique décoloniale, où on a l'impression que finalement l'antisémitisme est appréhendé uniquement à travers le rapport avec le colonialisme, où ce serait finalement une proto-critique du colonialisme, mais dont il faudrait quand même se débarrasser pour des raisons finalement morales peu explicitées, ou pour des raisons antinationalistes, comme dans le cas des anti-Deutsch. Et j'ai l'impression que, justement, votre approche de l'antisémitisme, elle n'est pas, monolithique. Elle ne cherche pas une cause unique de l'antisémitisme, de l'adhésion à l'antisémitisme, mais elle essaye d'explorer comment est-ce que, finalement, tout un faisceau de rapports sociaux, racistes, capitalistes, etc., pousse certains individus dans des situations historiques précises à adhérer à l'antisémitisme, à développer des discours antisémites, à commettre des actes antisémites. Et donc, ça invite finalement à essayer de comprendre et de combattre l'antisémitisme de manière peut-être un petit peu plus fine et on espère du coup plus efficace que finalement des approches soit moralisatrices, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Ourya Boutelja, où finalement on a l'impression que la seule raison pour laquelle l'antisémitisme est mauvais, c'est pour des raisons morales ou pour des raisons purement stratégiques, de finalement c'est pas bien parce que ça nuit un peu à notre cause, ou pour des raisons théoriques parce que finalement le problème de l'antisémitisme, c'est que c'est une fausse critique du capitalisme. Et j'ai l'impression que tout en reprenant certains éléments, par exemple de Poston ou de Werner Bonnefeld, vous essayez de justement d'avoir une approche de l'antisémitisme qui essaye de le comprendre en situation, dans le cas de la situation française, et essayer d'expliquer par exemple l'antisémitisme de certaines franges de la population, que ce soit les prolétaires racisés ou les classes moyennes blanches, par des raisons qui ne sont pas uniquement de tel ou tel ressort. Par exemple, vous essayez pas d'expliquer tout par des raisons économiques, ni tout par des raisons psychologiques, mais vous essayez de comprendre ce phénomène pour mieux le combattre par tout un faisceau d'explications. Donc, est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur...
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que en partant donc de cette question de en quoi consiste l'antisémitisme contemporain, c'est si tant est qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose comme un antisémitisme spécifiquement contemporain, ce qu'on peut pas présupposer. C'est l'un des présupposés qu'on rencontre souvent dans les critiques disponibles de l'antisémitisme, aussi bien d'ailleurs à gauche qu'à droite de l'échiquier politique. À droite, avec le tournant de plus en plus agressivement tourné vers une certaine idée du racisme anti-blanc qu'a pris Pierre-André Taguieff avec sa thèse « Une nouvelle judéophobie », mais aussi à gauche, avec la reprise de cette idée de quelque chose qui serait distinct de l'antisémitisme historique, qui serait une stigmatisation nouvelle des juifs, qui émanerait désormais principalement du prolétariat africain ou nord-africain. À rebours un peu d'une telle analyse, l'idée a été en fait d'essayer de tenir un équilibre assez difficile, en fait, dans la mesure où, d'un côté, il s'agit justement de se demander, non pas à quoi correspond l'antisémitisme dans le système de catégories de l'économie capitaliste. D'accord, il s'agit pas de dire d'emblée que l'antisémitisme, c'est l'hostilité à l'égard des abstractions formées par certaines formes du capital. Il s'agit pas de dire ça, mais il s'agit plutôt de se dire, c'est dans des rapports sociaux entre les groupes qui ont une existence bien réelle et une existence toujours inégalitaire, structurée par des rapports hiérarchique de domination. Dans le cadre de ces rapports, qui sont du coup aussi, moi, en partie, des rapports de classe, comment apparaît, comment émerge, comment se reproduit, et comment cette forme de racialisation spécifique qui est l'antisémitisme gagne-t-elle une efficace? Donc, évidemment, il y a plusieurs, prémices qui sont contenues, qui d'ailleurs, j'espère, seront discutées plus en avant de notre collectif. Il y a d'une part, quand même quelque part, l'idée que, disons, le cadre de l'analyse de base, c'est une certaine théorie des rapports de classe. Donc, à mon avis, l'une des questions qu'on peut lui poser, et l'une des critiques qu'on peut lui formuler, c'est quid des rapports de genre. Que ça, indépendamment d'une sorte de position qui consisterait à dire qu'il faut toujours parler de tous les rapports sociaux, mais on pourrait en l'occurrence dire que typiquement dans les rapports de genre, il y a beaucoup de facteurs qui ont influencé sur la genèse et sur l'émergence de l'antisémitisme. Il suffit de penser par exemple aux stigmates qui étaient historiquement associés aux hommes juifs comme des hommes efféminés, ou alors penser aux stigmates spécifiquement attachés aux juives qui le sont peut-être de cette manière encore aujourd'hui. Si du coup je parlais d'un équilibre entre cette analyse des rapports de classe d'une part et d'autre part l'analyse de la racialisation, c'est que par ailleurs, on a aussi essayé de montrer quelle est justement en fait la force, disons, matérielle des différentes représentations qu'on peut se faire des juifs. Force matérielle des représentations, ça veut dire en fait que justement parler en termes de racialisation, ça veut dire parler de la manière dont on va projeter des choses sur les juifs, projeter une forme de responsabilité des rapports sociaux tels qu'ils existent, donc projeter des formes de pouvoir conçues comme limitées, projeter aussi une forme de volonté d'intégrer et de contrôler la société, qui est souvent ce qui motive les formes les plus meurtrières de l'antisémitisme. Donc c'est cet équilibre-là que le texte essaye de tenir, et c'est ça qu'on peut voir un petit peu en effet aussi en termes d'ouverture à une explication qui soit pas monocausale, qui fasse pas référence uniquement à une détermination, qui poserait cette détermination comme d'emblée la plus importante. D'où les nombreux détours empiriques, donc à la fois historiques, aussi sociologiques, en fait, puisque nous, il est évident qu'on ne peut pas parler de rapports de classe sans parler aussi des rapports entre différents segments de classe, c'est-à-dire entre des différentes fractions qui se constituent en fonction de la position que certains vont avoir dans les différents marchés capitalistes, le marché du travail spécifiquement. Et c'est là qu'on va avoir recours, par exemple, à un développement sur la manière dont l'intégration des immigrés nord-africains, selon qu'ils étaient juif au musulman est une intégration différenciée, c'est-à-dire une insertion dans la société qui se fait de manière tout à fait inégale en raison de distinctions qui appartenaient à la société coloniale dont ils étaient issus. Ensuite, pour ce qui est de savoir si on a réussi à tenir cet équilibre, je pense que c'est justement ça qui va émerger au cours des discussions auxquelles nous espérons que ce texte donnera lieu.
Et juste simplement sur cette question de trouver un juste équilibre dans l'explication ou la restitution d'une analyse de ce phénomène, je pense que l'important, en fait, c'est de ne pas le réduire à un facteur causal dans un modèle d'analyse d'un problème et à une finalité stratégique qu'on veut défendre dans cette explication, quoi. Par exemple, on critique l'impérialisme, donc l'antisémitisme est une fonction de l'impérialisme pour, d'une certaine manière, justifier la domination d'autres populations racisées ou l'explication économiciste, etc., etc. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre le phénomène dans sa complexité et dans le moment présent tel qu'il existe aujourd'hui. Je pense qu'un des points importants, c'est de ne pas le rabattre sur telle ou telle forme qu'il prend, comme étant l'unique forme qu'il prend. Par exemple, l'antisémitisme correspond à un résidu du fascisme de droite, ou l'antisémitisme est une forme toute nouvelle qui correspond du coup à une critique déformée de l'État impérial de la part des populations racisées maghrébines. Et en fait, on veut comprendre en quoi il y a continuité, en quoi il y a nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a des schèmes de l'antisémitisme qui sont toujours présents et qui sont réanimés dans des contextes historiques transformés. Le schème classique étant la personnalisation d'une domination dans un groupe ethnique, donc dans une sorte de transmission généalogique de cette domination. Et ce schème-là, en fait, il animait l'antisémitisme traditionnel, si on veut l'appeler comme ça, et il est encore très présent aujourd'hui. Mais à cela se rajoute l'histoire précise du contexte français, l'histoire d'une décolonisation qui joue un rôle, hein. On n'est pas en train de dire que le facteur colonial, etc., quand on critique les discours décoloniaux sur l'antisémitisme, on n'est pas en train de dire que ce facteur colonial ne joue pas un rôle, au contraire. Ils jouent un rôle structurant, mais pas uniquement en raison de la stratégie d'État qui est derrière, mais en raison du vécu des individus, du vécu différencié des individus par rapport à ces stratégies impériales d'État. Et notamment, comme l'ami le disait tout à l'heure, c'est cette intégration différenciée des populations nord-africaines, notamment, comme l'exemple algérien montre bien, dans la nation française, à l'issue de cette colonisation, pendant la fin et à l'issue de cette colonisation. Hein, et le fait qu'il y ait pu y avoir, du coup, des expériences différenciées selon qu'on appartenait à tel ou tel segment ou groupe racisé. Alors, on peut revenir dessus par la suite, mais je pense que c'est important de montrer qu'on essaye de se saisir comme ça la complexité du phénomène dans la continuité historique.
Oui, c'est intéressant, effectivement, voilà, d'incarner un petit peu la réflexion sur l'antisémitisme, même si dans l'article, il y a une réflexion, disons, générale et théorique sur les causes de l'antisémitisme, les causes de l'adhésion à des théories antisémites. Il y a évidemment une confrontation, par exemple, aux théories de Postone. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de s'intéresser dans le contexte français et aussi dans le contexte français, pas simplement, disons, de l'antisémitisme de Vichy, mais disons l'antisémitisme le plus contemporain, de s'intéresser voilà, aux causes de l'adhésion de l'antisémitisme à l'antisémitisme et de partir pour ça non pas d'un postulat assez idéaliste et réductionniste en disant finalement, qui est partagé d'ailleurs par le pire comme par des explications un peu monocausales du type de celle de Moshe Postone, que les prolétaires racisés seraient antisémites parce que finalement ce serait pour eux le premier pas vers une critique de l'impérialisme et du colonialisme, ce qui en fait relève la projection de la part des tenants de cette théorie, ou que ce serait finalement une critique tronquée du capitalisme, sans voir que les individus antisémites, et d'ailleurs pas que des prolétaires racisés, mais aussi des classes moyennes blanches, en fait cet antisémitisme, ils y adhèrent, certes pour des raisons qui sont parfois de l'ordre politique et cognitif. Politique, parce qu'effectivement, pour eux, ça peut être effectivement une forme de contestation anticapitaliste ou de contestation du colonialisme israélien. Ça, c'est indéniable. Et pour autant, évidemment, il faut rappeler que ce sont des impasses et pas les premières étapes vers une politisation émancipatrice. Certes, il y a évidemment aussi des éléments cognitifs. Vous le rappelez à la fin de l'article que, effectivement, l'antisémitisme, entendu cette fois-ci, et ce n'est pas que ça, comme cette personnalisation des rapports sociaux capitalistes dans une figure qui serait le juif, ou dans une généalogie close, comme vous dites, donc les juifs. Évidemment, ça procure un sentiment de satisfaction puisque toute la complexité des rapports sociaux de domination et d'exploitation, capitalistes, mais on pourrait dire aussi raciaux, etc., etc., s'éclaire par un facteur monocausal qui serait cette figure agissante, ce complot mondial juif. Et donc, oui, vous dites bien qu'effectivement, ce sont des ressorts, mais un des autres ressorts, quand même, qui souvent a été un peu négligé, c'est l'expérience sociale des prolétaires racisés qui ont eu le sentiment d'avoir été moins bien intégrés, moins bien insérés dans la société française, notamment après la décolonisation de l'Algérie en 1962. Et donc, finalement, il y aurait une forme, disons, de ressentiment qui serait créé par le sentiment d'avoir été lésé dans l'intégration à la société française. Et puis d'autre part, même si c'est pas exactement ce qui est dit dans l'article, mais je pense qu'on peut appliquer également ce genre de théorie à la classe moyenne blanche, notamment en voie de précarisation, qui peut ressentir une supposée surintégration des Juifs, parce que ça c'est quelque chose que vous dites, comme finalement une injustice et développer à partir de là une forme de ressentiment. Parce que ce qui finalement lie quand même dans l'expérience sociale à la fois, des prolétaires racisés qui peuvent adhérer aux théories antisémites de Dieudonné et des classes moyennes blanches qui peuvent adhérer aux théories antisémites de Soral, et d'ailleurs il y a une perméabilité des deux, et pour cause, une des expériences sociales communes, même si évidemment quand on parle d'expérience sociale, elle n'est pas uniquement matérielle, elle est aussi médiée par l'idéologie, les représentations, etc., c'est le sentiment que les Juifs, non seulement se sont mieux intégrés à la société française que les Arabes ou les Noirs, et qu'ils ont plus de bénéfices matériels et symboliques à ce titre, mais d'autre part, qu'en plus, ils sont mieux intégrés presque que les Blancs eux-mêmes, et d'où l'expression que vous utilisez de surblanc, et d'où le titre de votre article, plus blanc que blanc.
En effet, et ce titre, il a fait l'objet de discussions entre nous. Pourquoi? Parce que, il n'est pas univoque. Il peut, si on ne lit pas l'article, être conçu justement comme l'une des positions qu'il essaye de critiquer chez Ouria Boutelja, justement, cette idée, la société dans son ensemble devrait être surtout conçue comme une pyramide dans laquelle il y a les blancs d'en haut, puis on ne sait pas trop, peut-être au même niveau, ou en tout cas ils essayent les juifs. Ensuite, tel ou tel autre groupe racial, dans cette logique on dirait que c'est les Asiates qui sont mieux intégrés sur le marché du travail, et ainsi de suite. Et puis les Arabes, les Noirs, et tout en bas, les Roms. C'est un peu comme ça que certaines conceptions décoloniales du racisme et du racisme d'État présenteraient les choses. Alors, le fait qu'on rejette l'idée qu'il existe une hiérarchie raciale constituée de cette manière-là ne veut pas dire que, par ailleurs, on ne considère pas qu'il y ait une sorte d'ordre social racialisé. Et là, je pense aux travaux de la chercheuse féministe Colette Guillaumin, son livre « L'idéologie raciste », où justement, les questions d'un ordre symbolique qui structure les sociétés marquées par la racisation. Et c'est quoi cet ordre symbolique? Ben justement, en fait, c'est l'idée que la société est structurée autour de rapports d'exploitation, autour de rapports de domination, et que dans cette société se forme aussi, du coup, ce que Colette Guillaumin appelle un système de marque, c'est-à-dire comme des formes de stigmates qui sont attachés à différents groupes selon leur position, disons, statistiquement la plus probable dans la hiérarchie ainsi formée. Mais la hiérarchie ainsi formée, justement, elle n'est pas constituée uniquement par un rapport racial. Elle n'est pas constituée uniquement, elle n'est pas structurée uniquement par le racisme. Le racisme appartient à une formation sociale.
Le problème chez Boutelja et ce qu'elle reprend aussi chez certains discours en fait qui sont eux-mêmes antisémites, c'est le fait de voir une sorte de concurrence des racialisations et qu'en fait le privilège accordé aux uns serait la raison pour laquelle les autres seraient racialisés et vice-versa, quoi, une sorte de vase communicant, comme si du coup on pouvait vouloir expliquer en fait la domination raciale des populations par exemple arabes par le privilège qui serait accordé aux juifs de l'autre côté, quoi. Ça sert de comparaison qui nous semble très problématique, quoi. Et après, sans pour autant nier qu'il y ait effectivement dans la société des expériences différenciées de la racialisation.
Du coup, le titre plus blanc que blanc, il faut pas le comprendre comme si on disait qu'il faudrait comprendre l'antisémitisme dans des rapports qui sont principalement ou uniquement des rapports entre blanc et noir. Car on se place pas dans cette analyse, encore une fois, monocausale, qui en fait renvoie aussi en partie à un certain antiracisme, à une certaine stratégie antiraciste. C'est ce qu'on trouve un petit peu en fait sous la plume des premiers auteurs dans le cadre du mouvement Black Power aux États-Unis, qui ont parlé de racisme institutionnel. Dans leurs analyses, qui prennent quand même, c'est l'idée, en fait, d'une structuration de la société autour d'un pouvoir blanc qui opprime les noirs. Il n'y a vraiment qu'une place très infime qui est accordée à d'autres formes de détermination, comme notamment la place des noirs sur le marché du travail. Donc ça, c'est pour le dire dans des termes négatifs. Il ne s'agit pas de comprendre les choses dans cette manière-là, mais en disant plus blanc que blanc, précisément, pour reprendre ce que tu disais, il s'agit en fait de désigner un petit peu le ressort spécifique à cet antisémitisme contemporain, qui est non plus d'accuser les juifs de se tenir à l'extérieur de la société, de cultiver une différence qui les éloignerait des valeurs de la République ou qui les conduirait à se constituer en nation dans la nation. C'est plus trop ça qui est prégnant. Ce qui est prégnant, c'est plutôt l'idée en fait que les Juifs parviendraient même à usurper en quelque sorte l'identité blanche au point de contrôler les Blancs eux-mêmes, au point d'avoir intégré non seulement du coup le marché du travail, non seulement les positions du pouvoir, mais même en quelque sorte d'être encore plus haut placé que ce supposé pouvoir blanc. Donc c'est un peu ce ressort spécifique là qu'on essaye d'identifier dans ce titre. Mais bon, c'est pas pour rien qu'on a mis un point d'interrogation. Le point d'interrogation, il vise justement à interpeller cette tendance à concevoir les Juifs comme un groupe qui serait désormais non plus mis à part en tant qu'il est stigmatisé, mais qui serait mis à part parce qu'il est excessivement privilégié, même peut-être plus privilégié que les Blancs. Pourquoi même presque plus privilégié que les Blancs? Parce qu'il ferait l'objet d'une forme de philosémitisme, comme le disent certaines personnes particulièrement enclines manifestement à renouveler des théories nationalistes à tendance antisémite de l'extrême droite, à peu près de l'époque de l'affaire Dreyfus. Donc en fait, il serait encore plus privilégié que les Blancs, selon cette lecture, dans la mesure où les Blancs leur accorderaient une place, en quelque sorte, de rempart contre toutes les critiques qu'on pourrait faire à l'égard des États occidentaux contemporains. Ils n'auraient d'existence qu'en tant qu'ils sont instrumentalisés pour défendre la cohésion nationale. C'est justement un contre-courant d'une telle lecture que nous essayons justement de théoriser qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui est la genèse de cette image de sur-blanc, de blanc qui non seulement contrôle les autres blancs, mais qui en plus sont de quelque sorte là pour protéger cet ordre blanc.
Donc si je comprends bien, en fait, il s'agit finalement de proposer, en même temps qu'une approche de l'antisémitisme un petit peu plus complexe et moins monocausale que d'autres théories, aussi de proposer une approche de la racialisation, plus généralement, à partir notamment là du cas de l'antisémitisme, qui sont un petit peu plus complexes que d'habitude. C'est-à-dire que, pour clarifier, j'ai pas l'impression que ce que vous dites, c'est que le racisme ne prend pas notamment la forme d'une oppression institutionnelle par l'État, puisqu'il le prend dans certains cas, ni qu'on pourrait en aucun cas faire une analyse matérialiste de certaines formes de racialisation, dans le sens où certaines formes de racialisation donneraient lieu à des rapports de domination et d'exploitation qui bénéficieraient à une minorité de racisants, pour reprendre les termes de Guillaumin, aux dépens d'une majorité, enfin ça dépend si on utilise les termes de minorité et de majorité démographiquement ou politiquement, disons qu'ils donneraient des avantages à des racisants aux dépens de racisés qui eux seraient surexploités et dominés. Il ne s'agit pas de nier donc qu'on puisse faire une analyse matérialiste de certaines formes de racialisation, ni qu'il peut y avoir évidemment une forme de racialisation spécifiquement coloniale, ou qu'il puisse y avoir une forme de racisme d'État, mais simplement que ceci n'explique pas toute la racialisation, et notamment n'explique pas la racialisation spécifique aux Juifs, mais qu'en réalité on retrouve, et ça c'est ce que vous dites à la fin de l'article, pour d'autres catégories, notamment les Chinois en Asie du Sud-Est ou les Tutsis après l'indépendance du Rwanda jusqu'en 1994, c'est que finalement, on ne peut pas comprendre la racialisation uniquement à partir du modèle du racisme d'État ou du racisme qui donnerait des avantages matériels à des racisants aux dépens de racisés. Ce que j'ai l'impression, c'est que du coup, il y a aussi, à travers cette volonté donc, d'échapper à une espèce de définition unique de la racialisation, de ce que ce serait que la racialisation, une tentative de penser la racialisation pas uniquement comme étant liée simplement au rapport de race, entre guillemets, au rapport entre racisants et racisés, ou entre racisés eux-mêmes. C'est des expressions que vous utilisez, donc vous prenez en compte cette dimension, mais simplement, il faut les penser aussi en articulation avec les rapports de classe et aussi, comme vous l'avez dit, avec les rapports de genre, qu'il faut être attentif non pas simplement aux aspects matériels de la racialisation, donc notamment la division inégale du travail entre racisants et racisés, mais aussi aux aspects symboliques ou aux agressions physiques, etc., qui sont là, pour le coup, des phénomènes qui touchent aussi, ou particulièrement sur certains aspects, les Juifs. Être attentif aussi donc aux aspects idéologiques et symboliques et pas s'enfermer dans une définition finalement économiciste ou matérialiste de la racialisation. Et puis enfin, j'ai l'impression que du coup, analytiquement, vous dites bien qu'il y a effectivement une spécificité au rapport de race à la racialisation, donc il faut les considérer, disons, comme n'étant pas uniquement une fonction du capitalisme ou quelque chose qu'on pourrait intégralement expliquer par le capitalisme. Mais en même temps, vous dites bien qu'à un niveau empirique, la racialisation est inextricablement mêlée au rapport de classe et que donc une analyse de la racialisation et notamment de l'antisémitisme qui tenterait d'expliquer des situations concrètes uniquement à partir des concepts, par exemple, de hiérarchie raciale, pour reprendre l'expression du coup de Ouri Aboutelja, serait vouée à une incompréhension de la réalité sociale, puisque la réalité sociale, elle est faite justement de cet entremêlement des rapports sociaux de classe, de race, de genre, etc.
Ouais, je pense qu'il y a deux choses dans ta question auxquelles on peut répondre différemment. La première, c'est en fait la réduction qu'on critique de la racialisation à un instrument de pouvoir exercé par les dominants sur les dominés, dans une structure qui est celle de la domination. Alors, capitaliste de classe, donc un instrument utilisé par la classe capitaliste sur la classe prolétaire, ou dans une structure impérialiste, du coup un instrument utilisé par l'empire étatique sur les populations colonisées. Et du coup, par rapport à ce premier aspect, je pense que c'est important pour nous de montrer que la racialisation peut être un phénomène qui est transversal, mais qui s'explique par les rapports concrets des classes les unes avec les autres. Notamment, comprendre que le rapport de classe, le rapport social de classe ne se réduit pas à un rapport de domination de la classe capitaliste sur la classe prolétaire. Il correspond aussi à la structuration de ces classes et les différences qui les composent. Et notamment, dans le phénomène de l'antisémitisme, c'est comprendre que le phénomène peut être l'expression des dominés eux-mêmes, et non pas du coup des dominants, pour trouver une raison à leur domination, mais qui n'est pas forcément une raison objective, etc. Ou alors leur désavantage dans leur situation de classe. Certes, alors si on regarde les analyses empiriques, il y a de l'antisémitisme qui vient de pouvoir dominant, il y a aussi de l'antisémitisme qui vient de situation de domination, où on est soi-même dominé. Et on essaie de comprendre cela dans sa complexité. Alors, sur ce point-là, je pense que c'est ce qu'on voulait essayer de montrer aussi. Et sur la dimension matérielle de l'analyse, alors je pense que c'est important de savoir ce qu'on entend par matériel. Alors oui, on veut défendre une analyse matérialiste, Maintenant, est-ce que ce matérialisme, ça doit être quelque chose qui explique le phénomène de la racialisation par l'économie au sens des catégories économiques? Alors Poston, par exemple, va dire qu'il fait une analyse matérialiste du phénomène en expliquant que l'antisémitisme est l'expression de la compréhension abstraite de la valeur qui serait séparée de sa dimension concrète. Et que ce serait une focalisation sur l'abstraction séparée de la concrétude, etc. À notre sens, c'est une analyse qui n'est pas du tout matérialiste au sens où elle en reste à des catégories conceptuelles pour expliquer une réalité matérielle sans comprendre en quoi elles agissent, comment elles agissent, ces catégories. En fait, est-ce qu'elles sont seulement même des motifs des individus qui sont antisémites? Une analyse matérialiste, au contraire, c'est se demander qu'est-ce qui, dans l'expérience sociale et historique de ces individus, peut les pousser à avoir des discours, défendre des idéologies et avoir des pratiques qui sont antisémites. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est important pour nous de prendre au sérieux la dimension, alors ce qu'on appelle psychosociale, de ce phénomène-là, qu'il peut aussi avoir un facteur subjectif psychologique dans son explication. Et matérialiste, ça veut aussi pouvoir dire l'expérience subjective.
Oui, c'est ça. Mais l'expérience subjective, socialement conditionnée. Les rapports dont il est question quand on parle d'antisémitisme sont aussi des rapports qui sont médiatisés par les consciences des individus et des groupes. Et donc, c'est impossible de rendre compte du ciblage des juifs en tant que juifs sans tenir compte de ce niveau-là, en fait, de l'expérience sociale, mais aussi du coup, de ce qui vient, en quelque sorte, donner un sens à cette expérience sociale en l'expliquant par référence à une figure, celle du juif, qui serait responsable de la misère matérielle ou morale que l'on perçoit dans sa propre existence. Maintenant, je voulais aussi revenir dans ce qui nous a conduit à ces discussions, un petit peu cette catégorie de racisme d'État. Évidemment, d'un côté, c'est un problème théorique dont on a déjà un petit peu déconstruit les présupposés, en disant que, comme le disait le camarade, que en fait, le racisme d'État, tel qu'il est utilisé comme concept par les auteurs qu'on discute, bah, il a tendance à réduire, en fait, paradoxalement, un peu comme le faisait le marxiste à une certaine époque, bah, il a tendance à réduire la racialisation à un instrument. Certes, non plus un instrument aux mains de la bourgeoisie, donc une certaine classe, mais d'un instrument aux mains de l'État, cet État qui serait donc aussi historiquement à l'origine des catégories raciales elles-mêmes, du fait de son passé colonial et ou esclavagiste, mais État qui serait aussi, en fait, tout celui qui divise et maintient les divisions entre les groupes racisés. Donc ça, c'est une partie du problème, l'aspect théorique du racisme d'État, mais le racisme d'État, surtout tel qu'il est employé, discuté et controversé aujourd'hui comme catégorie, là aussi a une fonction stratégique. Viser le racisme d'État, principalement le racisme d'État, c'est, comme son nom l'indique, viser l'État, interpeller l'État comme celui qui, étant donné qu'il est à l'origine des divisions sociales, étant donné qu'il est à l'origine d'une distribution inégale des privilèges, ben ce serait aussi l'État, en quelque sorte, la solution. Ce serait en interpellant l'État que certains groupes pourraient obtenir une dignité. C'est assez intéressant, d'ailleurs, quand on va regarder un petit peu dans les textes fondateurs, dans les textes clés, un petit peu des courants, de certains courants des coloniaux, en particulier des indigènes de la République, ben, c'est assez frappant de voir que, disons, quand même, quelque part, une notion de, c'est par l'État qu'on va parvenir à une forme d'égalité, quoi. C'est-à-dire, il s'agit de revendiquer une égalité réelle contre cette fausse égalité qui nous est donnée par la République. En ce sens, critiquer le racisme d'État, ça a aussi des implications pratiques. C'est-à-dire que, alors, c'est aussi critiquer une certaine stratégie. Je penserais qu'on pourrait parvenir à une transformation de l'ordre existant par une interpellation de l'État qui nous aiderait à obtenir une justice sociale. C'est aussi en ce sens-là qu'on peut critiquer le racisme d'État. Il a déjà été question de Poston. Dans le texte, il y a aussi une autre figure qui est critiquée, à savoir Werner Bonnefeld, qui lui se place davantage dans le sillage de la première théorie critique, donc Adorno et Horkheimer, qui lui, justement, bien qu'il n'ait pas une conception instrumentale de l'antisémitisme, c'est-à-dire conception de l'antisémitisme comme un instrument en main de l'État ou de la bourgeoisie, a du mal à véritablement, disons, s'abaisser à ce niveau des rapports concrets qu'évoquait le camarade, c'est-à-dire le niveau des rapports où interviennent, en fait, la conscience, les stigmatisations dans les les relations entre des segments de classe et ainsi de suite. Et ça, pourquoi? Parce que Bonfeld part de l'idée que, en fait, juif, c'est en quelque sorte un nom, en quelque sorte, qui renvoie à une chose interchangeable. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de juif réel pour parler de juif. C'est vraiment une conception de l'antisémitisme comme étant simplement et uniquement une forme de complotisme, une forme de conspiration qui projette des figures agissantes là où elles n'existent pas. On essaye de formuler une critique de cette façon d'envisager les choses, justement pour dire que non, si on veut se confronter pratiquement à l'antisémitisme, eh bien, il faut essayer de le situer dans des rapports sociaux et historiques déterminés. C'est-à-dire, concrètement, voir comment il se traduit, comment il se diffuse dans la société dans laquelle on est. Sans présupposer comme ça que, en fait, en quelque sorte, l'antisémitisme vivrait de ses propres représentations indépendamment de la réalité sociale. Non, il faut justement essayer de construire, de pointer les liens entre cet ordre symbolique que j'évoquais tout à l'heure avec Colette Guillemin, d'une part, et d'autre part, la différenciation de l'intégration des segments de classe dans la société. Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment de le signaler, ce texte de Bernard Bonfeld qu'on critique, enfin, avec l'accord de l'auteur et grâce à une camarade, on l'a traduit par la contribution de cette camarade qui a traduit ce texte. On va pouvoir le mettre en ligne sur le site de Stoff.
Sur cette critique un petit peu de Bonfeld qui parvient à construire une théorie de l'antisémitisme sans juifs, sans sujet et sans société où en fait il y a des juifs qui ont un certain rôle et une certaine représentation, on essaie au contraire de montrer comment fonctionne l'idéologie qui assigne aux juifs un rôle de toute puissance dans la domination, le rôle de la puissance obscure qui tire les ficelles, etc. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dans le texte à un moment des bribes du réel qui vont être recomposées dans une sorte de projection un peu délirante pour trouver une explication simpliste à cette domination. Mais ces bribes du réel, elles sont là du fait d'une certaine histoire, et notamment ce qu'on essaie de montrer à un moment, c'est de cette intégration différenciée qu'il y a eu entre plusieurs populations racisées, hein, les Arabes musulmans et les Juifs venant des terres coloniales françaises, et que la dimension ici de projection d'explication illusoire consisterait à rendre compte de la domination vécue par la différence de traitement de l'autre. Et que si, du coup, le juif a réussi à mieux s'intégrer, c'est qu'il est lui-même dépositaire du pouvoir. C'est qu'il est lui-même, en fait, dans une situation où... et qui serait du coup la cause elle-même de la racialisation de arabes racisés, par exemple. Donc c'est cette tentative-là de montrer aussi quelles sont les médiations qui vont recomposer le réel par des phénomènes psychiques de distorsion pour ensuite ériger comme ça la figure du juif en figure de la domination absolue. On la retrouve, cette figure-là de la domination juive, à la fois dans des discours d'extrême droite traditionnelle et à la fois dans des discours et des pratiques qui peuvent venir aussi d'autres populations racisées.
Pour regarder les choses en face, ce n'est plus simplement les discours, c'est-à-dire les passages à l'acte deviennent de plus en plus récurrents et dénotent d'ailleurs souvent une association entre juifs et musulmans. C'est-à-dire que l'idée, en allant tuer en masse des musulmans dans les mosquées, c'est en fait... aussi, en quelque part, de détruire des personnes dont la présence aurait été orchestrée et organisée par le pouvoir juif. Inversement, quand des juifs sont tués dans des synagogues, c'est aussi en tant qu'ils sont des représentants de cette société multiculturelle qui serait imposée à la civilisation occidentale. Voilà, quand on parle de bribes de réel, comme le disait le camarade, recomposer dans l'imaginaire antisémite. Voilà, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de superficiel, ce n'est pas quelque chose qui relève uniquement des symboles et des représentations. Au contraire, ça renvoie à des tendances bien réelles.
Oui, et d'ailleurs, il s'agit dans l'article aussi de contester l'idée comme quoi finalement l'islamophobie aurait remplacé l'antisémitisme, ou qu'il y aurait finalement une concurrence entre antisémitisme et islamophobie, les uns privilégiant la lutte contre l'antisémitisme aux dépens de la lutte contre l'islamophobie, et les autres privilégiant la lutte contre l'islamophobie aux dépens de la lutte contre l'antisémitisme. Et l'idée, j'ai l'impression, est justement de sortir de cette concurrence pratique, théorique, politique entre racialisation, où finalement un modèle de racialisation va être pensé comme le modèle de la racialisation et finalement les autres seraient moins importants, ce qui existe d'ailleurs aussi parmi certains théoriciens de l'antisémitisme qui ont tendance à en faire une forme de, finalement, de racialisation beaucoup plus importante finalement et significative parce qu'elle exprimerait l'anticapitalisme tronqué que l'islamophobie ou le racisme anti-arabe ou anti-noir qui finalement serait moins important ou moins, moins central en tout cas dans une théorie critique du capitalisme. Donc en fait ce que j'ai l'impression c'est que cet article permet de penser finalement la multiplicité des formes de racialisation et même que chaque forme de racialisation comporte des aspects différents qui ne sont pas réductibles à un aspect économique, social, politique, racisme d'État, racisme de la part des Blancs vis-à-vis des minorités raciales, que ce soit les Juifs, les Musulmans, les Arabes ou les Noirs, mais aussi qu'en fait il faut penser aussi, et c'est malheureux, formes de racialisation qui peuvent exister notamment entre racisés, c'est-à-dire notamment entre juifs et musulmans, ou juifs et arabes, ou juifs et noirs, pour reprendre aussi l'exemple des États-Unis. Même si, évidemment, dans votre tentative d'explication, vous n'êtes pas focalisé sur le racisme des populations arabes ou noires en France, contrairement à Pierre-André Taguieff, par exemple. Mais d'une certaine manière, du coup, on est en présence d'une double impasse, puisque d'une part, on voit effectivement une certaine réception de la part des populations pourtant les plus dominées et opprimées dans le capitalisme français, qui sont les prolétaires racisés, qui peuvent projeter finalement tout leur malheur sur la surintégration des juifs, voire sur un complot mondial juif qui expliquerait tous leurs problèmes. Et d'autre part, en revers, même si c'est évidemment pas l'objet de l'article, une partie des juifs français se sont rapprochés de positions de droite islamophobe, en finalement en projetant sur la figure des seuls prolétaires racisés finalement tous les problèmes lié à la montée de l'antisémitisme, alors même que, évidemment, la montée de l'antisémitisme, contrairement à ce que Pierre-André Taguieff veut bien dire, et d'autres, n'est pas uniquement réductible à la montée de l'antisémitisme chez les prolétaires racisés, mais qu'en réalité, c'est une montée beaucoup plus générale de l'antisémitisme. La question sur laquelle j'aurais envie de finir, c'est, on a bien compris à quel point est-ce que finalement, il y avait une impasse politique, alors évidemment, dans l'antisémitisme, contrairement à ce que, disons, certains discours du pire peuvent faire croire que ce serait finalement un premier pas vers une critique de l'État-nation, de l'impérialisme et du colonialisme. Donc c'est évidemment une impasse sur ce plan-là et aussi sur le plan anticapitaliste. Mais du coup, voilà, comment est-ce qu'on sort de cette impasse politique et comment est-ce qu'on sort aussi des projections réciproque qu'il peut y avoir entre racisés, les juifs qui projettent finalement l'antisémitisme uniquement sur les prolétaires racisés et les prolétaires racisés qui peuvent projeter une partie ou l'essentiel de leur malheur sur les juifs comme minorité surintégrée, voire qui dominerait le monde.
Comment on sort, c'est une question difficile, mais déjà sortir du tabou, ce serait pas mal. C'est-à-dire prendre à bras le corps la question et confronter les luttes à leur antisémitisme, en fait, quand il est présent. Ne pas vouloir à tout prix sauver les luttes et sauver leur dimension négative, mais s'y confronter, en discuter. Alors, je dis pas de la gauche, parce qu'en fait, c'est au sein des luttes plus généralement. Combattre non seulement l'antisémitisme tel qu'il existe chez les ennemis de classe, par exemple, et combattre aussi l'antisémitisme tel qu'il existe dans un terrain de lutte, je pense que ce serait une première étape. C'est pas à gagner, parce qu'en fait, dès qu'on veut le mettre en avant pour le dénoncer, le critiquer et avancer, on peut être aussi attaqué comme voilà, partisan du pouvoir en place, partisan sioniste, etc. Alors qu'en fait, il s'agit simplement d'avoir une lucidité sur la question, de se rendre compte qu'il y a une limite ou un obstacle à nos propres luttes, parce que l'antisémitisme va y être parfois mobilisé comme une manière d'identifier le problème de manière simplifiée, etc. Bon, moi, je pense en effet qu'il faut pas être aveugle sur le fait qu'il y a une dimension antisémite dans certains mouvements qu'on peut soutenir par ailleurs, comme les Gilets jaunes, et qu'on doit confronter ce problème. On peut s'y confronter, écrire dessus, discuter, etc. Moi, je pense que c'est une première réponse à la question.
C'est sûr. La difficulté, c'est que, en fait, spontanément, comment est-ce qu'on envisage parfois la lutte contre l'antisémitisme? qui est d'ailleurs aussi une expression qui existe hein, au niveau du gouvernement, ben, selon ce modèle-là, en fait, la lutte contre l'antisémitisme passerait par une certaine éducation, une certaine diffusion, d'explication du fait que non, on ne peut pas dire ça sur les juifs, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça qu'il s'agirait de faire, mais à une échelle militante auto-organisée? Je pense pas. C'est pour ça qu'on précise dans le texte qu'on est assez sceptique à l'égard de l'idée d'une sorte d'éducation civique militante qui serait la voie de sortie de l'antisémitisme. Je pense que c'est précisément pour ça que l'indication du camarade est déjà intéressante, c'est-à-dire qu'il s'agit de se confronter à l'antisémitisme, donc déjà avoir un cadre d'analyse pour pouvoir le repérer et pour en repérer les effets, c'est-à-dire montrer concrètement que, par exemple, dans le cas des Gilets jaunes, bah, l'une des formes que prenait le dégagisme un peu primaire des Gilets jaunes, le dégagisme, c'est-à-dire cette tendance à simplement voir comme horizon politique un changement total du personnel au pouvoir, bah, l'une des formes que prenait ce dégagisme, c'était précisément une forme antisémite. L'idée de dire que, en fait, il suffit, en quelque sorte, de se défaire de ces marionnettes de l'économie et de la politique pour retrouver une bienheureuse coexistence nationale. Chez certains Gilets jaunes, je dis bien, il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que c'est ça la caractérisation unique et principale qu'on pourrait faire des Gilets jaunes. En fait, déjà parvenir à montrer, pas seulement dans les textes, hein, mais aussi en intervenant concrètement dans des discussions, quand il est question de tactique ou de stratégie, d'expliquer que pointer l'existence de cette limite, l'existence de cet obstacle à une réelle transformation des rapports sociaux. Ensuite, ce qui est compliqué avec la question de savoir comment se confronter à l'antisémitisme aujourd'hui, comment sortir de cette impasse qui a été décrite, ce qui est compliqué, c'est que c'est un petit peu difficile d'identifier quelle est exactement la place de l'antiracisme. Parce que l'antiracisme, en réalité, ça peut être beaucoup de choses. Même les États, de nos jours, se revendique d'une manière ou d'une autre, d'une lutte contre le racisme ou contre l'antisémitisme, comme je le disais à l'instant. Donc en fait, déjà, il faut comprendre un petit peu ce qu'on veut dire quand on dit lutter contre l'antisémitisme, lutter contre le racisme. Bon, à ce sujet, on a débattu dans le groupe, dans le collectif, au sujet d'un texte de 1967 de Baldwin, nommé « Les Noirs sont antisémites parce qu'ils sont anti-blancs ». Qui, comme son titre l'indique, à la fois partage un petit peu avec notre texte un certain nombre d'analyses, notamment l'analyse d'un antisémitisme des Noirs qui serait nourri par leur ressentiment vis-à-vis d'un groupe mieux intégré, qui sont les Juifs de Harlem, qui partage cette analyse, mais qui par ailleurs justement fait preuve d'une forme d'antiracisme, qui justement et propose un petit peu sur l'idée qu'en fait l'horizon ultime c'est en quelque sorte la conciliation des Noirs et des Juifs et des chrétiens tous ensemble dans la nation. À la fin de la lecture de ce texte, c'est un peu ce qui ressort. Donc c'est aussi un texte qu'on a retraduit grâce à l'aide d'un camarade et qui paraîtra sur le site par ailleurs. Je vous donne cet exemple pour montrer que, du coup, en un sens, peut-être plutôt que d'essayer de voir dans la lutte contre l'antisémitisme ou dans l'antiracisme en quelque sorte une région à part, un combat qu'on pourrait séparer des autres, on devrait plutôt voir comment il y a des formes de lutte contre la racialisation dans les luttes telles qu'elles existent aujourd'hui elles-mêmes. Hein, c'est-à-dire que les différentes émeutes urbaines qu'on voit émerger depuis les années 80 dans différentes métropoles européennes, ben c'est des formulations éphémères, elles aussi très limitées certes, mais bon, au moins existantes, d'une contestation de l'impact du pouvoir disciplinaire, de la police, et mais aussi tout simplement de la relégation sociale dans les sociétés capitalistes contemporaines. Et encore, des luttes de femmes de ménage sous-payées, voire pas payées, dans les différents hôtels, des hôtels de luxe dans différentes parties de France. Femmes souvent issues donc de ce qu'on appelle l'immigration, sont aussi afrodescendantes, sont aussi une manière de lutter contre la place qui leur est imposée, la place subordonnée qui leur est imposée, pour le coup, dans la hiérarchie sociale réellement existante. Et donc, bon, évidemment, là se pose la question du coup, de la place spécifique que devrait occuper là-dedans, ou la forme spécifique que prend la lutte contre l'antisémitisme. Bon, évidemment, du coup, en fait, disons, la conclusion un peu à laquelle on arrive, nous, dans notre texte, c'est de dire qu'en fait, en fait, la lutte contre l'antisémitisme, c'est tant qu'on puisse reprendre cette expression, c'est une lutte dans la lutte. C'est une lutte dans la lutte, pourquoi ? Parce qu'il s'agit justement de se confronter dans les luttes elles-mêmes telles qu'elles existent, donc l'exemple des jeunes, dans ces luttes-là, de se confronter explicitement à la tendance attribuée aux juifs une responsabilité des formes de domination qu'on conteste. Et donc, c'est en quelque sorte aussi une manière, c'est une conclusion qui est en un sens assez pessimiste, dans la mesure où on considère que, en fait, il faut se confronter à cette idée que dans des moments de contestation des régimes en place, il va y avoir ce genre de dérive, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs, d'indices, déjà, dans le but tel qu'elle se déroule actuellement, qui vont vers cette idée qu'en fait, il va y avoir des formes de polarisation où, en fait, on cherche une figure qui serait proche du pouvoir, qui serait en train de nous mener à la crise. Donc, en fait, dans ce genre de contexte, on peut imaginer plusieurs choses. En fait, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On peut aussi imaginer ce qui est souvent en fait fait ou en tout cas accaparé par certaines stratégies antifascistes, d'accord, qui consistent en fait à tout simplement barrer la voie à ces éléments, à ces mouvements qui cherchent à cibler des groupes minoritaires, que ce soit des juifs, des musulmans, des sans-papiers, des roms, et ainsi de suite. Donc, il y a des formes d'autodéfense à prévoir, et qui de toute façon, donc là je suis pas en train de tenir un discours programmatique, je suis pas en train de dire ce qui devrait être fait, de toute façon, c'est des choses qui sont déjà expérimentées, qui sont déjà existantes. Et en ce sens, mon avis, c'est aussi dans ce genre de pratique, plutôt que, disons, dans une forme de formation ou d'éducation, que les choses doivent se faire. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas autonomiser l'antiracisme, à ne pas autonomiser la lutte contre l'antisémitisme, mais plutôt de voir en quoi ils sont réellement intégrés, ou en tout cas en quoi ça doit être des stratégies qui doivent être appliquées et expérimentées dans les luttes existantes, plutôt que être considérées comme une sorte de programme à part qui devrait faire l'objet d'une politique à part.
Ce travail est d'autant plus nécessaire que les entrepreneurs en antisémitisme sont dans ces stratégies comme ça de réappropriation des luttes. On pense du coup à ce que peuvent et ce qu'ont pu faire Soral et Dieudonné par rapport aux Gilets jaunes. Il faut s'opposer à ça, il faut faire bloc contre ça, non pas en gardant une position de surplomb, mais en fait en s'engageant dans les luttes elles-mêmes et en ayant conscience de ce fond-là et en ayant une position, un discours et des pratiques critiques à cet égard-là, quoi. Donc il y a deux choses en fait, ne pas présupposer que nos luttes sont protégées ou pures de ça et faire bloc contre aussi le regain d'antisémitisme qui s'exprime toujours aussi du côté des dominants ou des ennemis qui s'exprime sous les formes fascistes les plus classiques mais également dans des formes nouvelles, etc.
D'ailleurs, la première phrase de la conclusion, vous dites « l'antisémitisme est avant tout une limite et une forme contre-révolutionnaire de la lutte des classes ». Et on pourrait rajouter d'ailleurs même de la lutte antiraciste, précisément parce qu'elle produit une concurrence entre racisme et aussi entre antiracisme. Ce qui est clair en tout cas, c'est que ce que peut apporter votre intervention, c'est de penser les racialisations et pas simplement une forme de racialisation comme étant la forme de racialisation par excellence, même si évidemment la reconnaissance de ces différentes formes de racialisation, notamment dans ce cas de l'antisémitisme, mais aussi du racisme anti-noir, du racisme anti-rom, de reconnaître les spécificités de ces différentes formes de racialisation, certes, évidemment, ça ne va pas annuler pour autant les effets matériels et symboliques différenciés de ces différentes formes de racialisation, ça ne va pas annuler le fait qu'il y ait effectivement des différences matérielles et symboliques entre les différents groupes racisés, ce qui mène en fait structurellement à des formes de concurrence entre racisme et entre antiracisme, entre Roms et Arabes, entre Arabes et Juifs, etc., etc. Mais pour autant, cette reconnaissance de l'antisémitisme comme une limite et une forme contre-révolutionnaire de la lutte des classes et antiraciste, et d'ailleurs on pourrait dire aussi ça de l'islamophobie, que évidemment, voilà, la reconnaissance de ça, que c'est finalement une limite aux luttes et même une forme contre-révolutionnaire latente ou même réalisée de la lutte des classes et ou de la lutte antiraciste, c'est évidemment déjà un premier pas avant évidemment de la combattre pratiquement. Voilà, l'intérêt effectivement de cette approche de l'antisémitisme, où vous n'avez pas cherché, disons, à plaquer une théorie monocausale de la racialisation qui s'expliquerait par la critique tronquée du capitalisme, par une espèce de proto-critique anticoloniale, etc., etc. Mais voilà que c'est évidemment voilà, une racialisation spécifique et complexe, mais qui n'est pas non plus, disons, si exceptionnelle que ça, qu'il faudrait l'absolutiser et finalement rejeter les autres formes d'antiracisme, finalement, de les marginaliser, comme c'est parfois le cas chez les anti-Deutsch. Finalement, cette théorisation un petit peu complexe et spécifique de l'antisémitisme, c'est voilà, une intervention salutaire, disons, pour essayer voilà, d'en finir avec l'antisémitisme dans les luttes à la fois anticapitalistes et antiracistes.
Un grand merci à toi.
Ouais, merci beaucoup de nous accorder un peu la parole sur ce sujet-là, quoi, et de voilà, nous prendre au sérieux.
Bah, merci beaucoup. Du coup, on invite tous nos auditeurs et nos auditrices donc à lire l'article qui est beaucoup plus voilà, développé sur certains aspects qu'on a abordés aujourd'hui, mais c'est important d'avoir une espèce de méta-discussion à propos voilà, de cet article pour mieux en dégager les enjeux et aussi les pièges de lecture qu'on pourrait avoir à la lecture du titre ou de certains extraits. Donc on invite vraiment à lire cet article du début à la fin pour éviter justement d'avoir une vision tronquée de l'antisémitisme mais aussi de votre propre interprétation de l'antisémitisme. Donc merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission.
À bientôt.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.